Nous sommes le jeudi 29 septembre 2016. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Que penser des accusations répétées de Patrick Buisson contre Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2006? Nicolas Sarkozy aurait laissé dégénérer une manifestation contre le CPE afin de nuire à son rival de l'époque, le Premier ministre Dominique de Villepin. Emmanuel Leclerc a interrogé des CRS présents au moment de la manifestation en question.
Condamnation internationale après le bombardement de deux hôpitaux hier à Alep. Le régime syrien et Moscou sont une nouvelle fois pointés du doigt.
La Russie accusée dans un autre dossier, celui du crash du vol MH17 en Ukraine en 2014. Une commission d'enquête internationale a rendu ses conclusions hier. À 7h13, dans le billet économique, Marie Viennot évoquera l'appétit grandissant du groupe Bolloré pour l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft.
Et puis le sujet du jour, Alep, leur massacre, notre impuissance, point d'interrogation. Et la question du jour, pourquoi l'école aggrave-t-elle les inégalités ?
Invité du 20h de France 2, hier, Patrick Buisson a maintenu ses accusations à l'encontre de Nicolas Sarkozy en 2006, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il aurait sciemment laissé des bandes de black et de beurre, je cite, agresser des jeunes blancs anti-CPE, c'était lors d'une manifestation en 2006 aux Invalides à Paris. Une stratégie déployée, toujours selon l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, pour déstabiliser Dominique de Villepin, alors à Matignon, en vue de la présidentielle de 2007. Des accusations très graves donc portées alors que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui candidat à la primaire de la droite pour 2017. Patrick Buisson dit ne pas avoir de preuves ni d'enregistrement de ce qu'il avance. Il dit rapporter fidèlement ses propos dans La Cause du Peuple, publié aujourd'hui chez Perrin. Quelle crédibilité apporter à ces accusations ? Emmanuel Leclerc a mené l'enquête auprès des forces de l'ordre déployées sur le terrain ce fameux jeudi 23 mars 2006.
L'hypothèse très grave avancée par Patrick Buisson est jugée plausible par les CRS. Reste présent ce jour-là aux Invalides, puisque factuellement, c'est bien ce qui s'est passé. Mais à l'époque, l'ordre qui est donné au commissaire de police qui gérait les opérations, c'est qu'il ne fallait pas casser du casseur, avec la crainte d'une bavure ou qu'il y ait un mort, ce qui aurait pu embraser les banlieues comme en 2005, voire le cœur de la capitale. 10 ans plus tard, les deux explications très politiques tiennent toujours. La seule chose qui soit certaine dans cette histoire, c'est que les CRS présents sur place devaient, selon la loi, intervenir, comme le rappelle ce chef de section qui a souhaité conserver l'anonymat.
On peut faire beaucoup d'interprétations, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi laisser faire ? On est instrumentalisé. Oui, c'est très grave. On a identifié plusieurs agresseurs. J'ai rendu compte à mon commandant sur place que j'étais prêt à intervenir. Il n'y a jamais eu l'ordre d'interpeller ces individus qui étaient clairement identifiés et que l'on pouvait interpeller.
Ce chef de section raconte qu'il s'est posé le même genre de questions plus récemment sur la gestion des manifestations contre la loi travail, mais là, c'était des policiers qui étaient la cible, alors qu'en 2006, c'était des étudiants sans aucune défense qui se faisaient agresser sous leurs yeux.
Emmanuel Leclerc pour France Culture. Une dure semaine décidément pour Nicolas Sarkozy, confronté donc aux attaques de son ancien conseiller Patrick Buisson, à de nouveaux éléments dans l'enquête sur d'éventuels financement libyen, confronté également à la mise en examen pour trafic d'influence et détournement de fonds publics de l'ancien patron du renseignement, Bernard Squarcini, réputé proche de l'ancien chef de l'État. Les mauvaises nouvelles s'accumulent, même pas mal, a dit en substance hier Nicolas Sarkozy lors d'un meeting à Chantilly dans l'Oise.
Quand on est candidat à la présidence de la République, on doit avoir le cuir épais, très épais. On ne se laisse pas impressionner par personne, par la moindre manœuvre, aussi grossière soit-elle. On ne recule pas même devant la bassesse, même devant l'outrance, même devant la calomnie, même devant la trahison.
Propos recueillis par Frédéric Mettezo, Nicolas Sarkozy, qui n'a pas souhaité par ailleurs témoigner dans l'émission très attendue d'Envoyé spécial ce soir sur France 2. Diffusion à partir de 20h55, de nouveaux témoignages dans l'affaire Big Malion, cette société qui aurait été au cœur d'un système de fausses factures pour cacher les dépenses du candidat Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2012. 2 à 4 mois de prison avec sursis ont été requis hier contre 5 salariés d'Air France, jugés à Bobigny pour leur implication dans les épisode de la chemise arrachée du DRH de la compagnie. Ce n'était pas une opération syndicale, mais une opération de casseur puis de voyou, a déclaré le procureur, reprenant ainsi les termes employés par Manuel Valls au lendemain de ces incidents. C'était en octobre dernier. Le parquet a également requis 1 000 euros d'amende contre les 10 autres prévenus poursuivis pour des dégradations. Entre 50 000 et 100 000 emplois ont été créés ou sauvegardés en France grâce au CICE sur ses deux premières années d'application en 2013 et 2014. Le CICE, c'est ce dispositif phare du gouvernement actuel qui consiste à accorder aux entreprises un crédit d'impôt correspondant à 6% de leur masse salariale pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC, dans le but de leur redonner de la compétitivité. Ce matin, le comité de suivi de ce dispositif rend son rapport annuel sur la foi d'observation directe. Les syndicats dénoncent, eux, un gâchis d'argent public, car les 25 milliards dépensés dans le CICE, disent-ils, n'ont fait qu'améliorer les marges d'entreprises qui n'en avaient pas besoin.
7h06 sur France Culture, la suite du journal Catherine Dutu avec le soupçon d'une nouvelle bavure policière aux États-Unis.
Un homme, un noir non armé, a été tué par la police dans la banlieue de San Diego. Une manifestation s'est déroulée cette nuit au cri de ralliement du mouvement Black Lives Matter contre les violences policières envers les noirs, dont main en l'air, ne tirez pas, on y revient dans le journal de 7h30. Toujours aux États-Unis, le président Barack Obama a dit cette nuit qu'il n'avait pas encore entendu d'idée pour mettre un terme à la guerre en Syrie, sans envoyer en grand nombre de troupes américaines au sol, ce qu'il refuse. Washington, qui menace par ailleurs de geler sa coopération avec Moscou après les bombardements des deux principaux hôpitaux de la partie rebelle de la ville d'Alep, au nord du pays. Des raids menés par l'armée de Bachar al-Assad avec l'appui de l'aviation russe. Les Nations Unies dénoncent des crimes de guerre à Alep, où sont encore coincés dans les quartiers rebelles à l'est de la ville 250 000 personnes, des habitants qui vivent en enfer depuis une semaine avec les intenses bombardements. Laure Stéphane, notre correspondante dans la région.
Pour les ONG qui opèrent dans la partie rebelle d'Alep, c'est une certitude. Le bombardement contre les deux principaux hôpitaux de ces quartiers a été délibéré. Hamza Al-Khatib dirige une structure médicale dans l'est d'Alep.
Il n'y a que 6 hôpitaux dans la zone assiégée. Je n'ai pas dormi durant la nuit de l'attaque. Il a fallu transférer les patients des hôpitaux attaqués vers les autres hôpitaux. Nous en avons admis ici. Les frappes et les bombardements ne s'arrêtent pas.
Hamza Al-Khatib dit s'attendre à tout moment à ce que son hôpital à Al-Quds soit lui aussi pilonné. Il s'alarme du niveau de destruction dans la ville.
Le régime, ces jours-ci, attaque des quartiers civils. Même les zones militaires n'ont jamais été touchées par des attaques aussi puissantes.
Alors que les frappes aériennes continuent de s'abattre contre les quartiers rebelles, les habitants se sentent abandonnés, dit Hamza Al-Khatib.
Mon sentiment et celui des gens d'Alep, c'est que nous sommes complètement seuls. Les grandes nations parlent de comment sauver le cessez-le-feu, cela n'a aucun sens. Alors que le régime et les Russes essaie de prendre le contrôle d'Alep, de la partie est de la ville.
Une zone où les pénuries augmentent à cause du siège imposé par les forces pro-régime.
Laure Stéphane, correspondante de France Culture à Beyrouth. Moscou, accusée de crimes de guerre en Syrie par les États-Unis. Moscou, accusée dans un autre dossier, le crash du vol MH17 de Malaysia Airlines dans le sud-est de l'Ukraine. C'était en 2014. La commission d'enquête internationale chargée de cette enquête donc impute la responsabilité de cette tragédie à un missile russe tiré depuis une localité contrôlée par les séparatistes au moment des faits. Mais Moscou réfute, Jean-Didier Revoin.
Moscou dénonce une enquête biaisée et orientée, basée sur des informations fournies par les services secrets ukrainiens et Internet, pour aboutir à des conclusions défavorables à la Russie. Aucun système de missiles russes, y compris Buk, n'a jamais traversé la frontière russo-ukrainienne, s'est défendu le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov. Et pour mieux asseoir le point de vue des autorités, le fabricant du système de missiles Buk, qui a abattu le vol MH17 dans le ciel ukrainien, a tenu à Moscou une conférence de presse pour présenter ses arguments. Premier reproche adressé aux enquêteurs néerlandais, ils ont utilisé un missiles américains dans leur simulation. Ensuite, ils n'ont pas tenu compte de certains débris dans leurs conclusions. De plus, les Russes estiment que les dégâts subis par l'avion, tels qu'ils sont présentés dans le rapport néerlandais, ne correspondent pas à la réalité. Enfin, les enquêteurs n'ont pas pris en compte les documents sur le crash fournis par la Russie. Le fabricant du missile a déclaré pour sa part avoir procédé à 3 expériences grandeur nature qui montrent toutes que le missile a été tiré depuis un village contrôlé par l'armée ukrainienne au moment des faits. Pour Igor Konashenkov, des accusations aussi graves nécessitent une argumentation sérieuse et surtout des faits, une façon de décrédibiliser les résultats de cette enquête internationale tout en soulignant que Moscou reste disposé à coopérer. Il est de notre intérêt de mener une enquête objective pour identifier les véritables auteurs de l'accident et nous continuerons à fournir toute l'assistance nécessaire à cette enquête, a conclu le porte-parole de la défense russe.
À la surprise générale, les pays de l'OPEP ont trouvé un accord historique pour limiter leur production de pétrole et soutenir ainsi des prix durablement affaiblis par une offre excédentaire. Le peuple israélien se prépare à se recueillir sur la dépouille de Shimon Peres et à recevoir les dirigeants de la planète aux obsèques du prix Nobel de la paix et ancien président, figure historique, décédé hier à l'âge de 93 ans. Le corps de Shimon Peres va être exposé pendant 12 heures à l'extérieur de la Knesset, le Parlement à Jérusalem. Et demain matin, les grandes ce monde se réuniront au cimetière national du Mont Herzl pour mettre en terre celui que beaucoup décrivaient comme leur ami, de Barack Obama à François Hollande. Retour en France avec un prix littéraire qui détonne, le prix Esprit Libre, soutenu par l'Université Paris Diderot et la fondation du même nom. Il est décerné depuis 3 ans par des détenus en prison au centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne, dans la banlieue parisienne. Le prix Esprit Libre, remis hier à sa lauréate, la navigatrice et écrivaine Isabelle Autissier, pour son roman Soudain Seul, paru chez Stock l'an dernier. Bénédicte Robin, vous avez assisté à la cérémonie.
Dans une petite salle de la prison se mêlent sans distinction professeurs d'université, présidente, directeur du centre pénitentiaire et détenus.
Moi j'avais complètement abandonné la lecture en prison.
Derrière le pupitre, Bernadette, l'une des 4 femmes de ce jury de 9, partage son expérience de jurée littéraire.
Pour moi c'était vraiment un challenge.
Moi, vous verriez mes notes, je dépouillais carrément le livre, alors tout. Donc j'étais vraiment maladroite, donc j'ai appris un petit peu à diminuer. Mais être critique c'est pas évident, donc moi je trouve que ça m'a servi à lire autrement.
Guidé par 2 professeurs de littérature de l'Université Paris Diderot.
De manière à ce que les inhibitions initiales, les réticences à s'exprimer, à prendre la parole sur les livres soient dépassées.
Par un travail de groupe mixte surtout, insiste Régis Salado.
Croiser les regards des détenus hommes, des détenus femmes sur les livres est très très enrichissant aussi. Ça permettait aussi une forme de sociabilité qui n'existe pas en prison, qui a fait que les séances de travail étaient aussi vraiment de bons moments partagés où s'humaniser la prison.
Je suis rentré, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. La littérature m'a sauvé.
Jamel a passé 25 ans de sa vie derrière les barreaux.
D'avoir ouvert les livres, ça a ouvert mon esprit. Et ça m'a ouvert aux gens. C'était fil d'Ariane. C'est encore la société civile, celle où on sera confronté à l'extérieur.
Car c'est l'enjeu aussi de ce projet, celui de la réinsertion. Ils y pensent tous, tout le temps, même en lisant.
Dans le récit de cet ouvrage, Isabelle Autissier, les personnages étaient dans une île. Le personnage a pu voir un bateau qu'il a récupéré, qu'il a sauvé. Pour certains, dont moi j'en fais partie, on crie. On fait des appels à ce bateau, on ne nous entend pas. Et notre îlot, c'est l'îlot carcéral.
Auquel il manque encore pour lui trop de ponts pour rejoindre sans embûche la société civile.
L'univers carcéral versant plus sombre, 5 surveillants ont été agressés mardi au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon. FO appelle les surveillants à une journée de blocage ce jeudi partout en France. Nous reviendrons sur l'inquiétude des personnels pénitentiaires dans le journal de 7h30, choix de la rédaction consacré ce matin aux unités dédiées pour les personnes radicalisées. Le temps de ce jeudi 29 septembre, du soleil partout sauf dans le nord-ouest. La Martinique est en alerte orange cyclonique, écoles et crèches fermées. La Guadeloupe est en vigilance orange. Les températures maximales cet après-midi comprises entre 22 et 27 degrés sur la moitié nord du pays, entre 26 et 30 au sud.